RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, cette fois-ci, on y est, plus que quelques jours, voire quelques heures, avant que cette Coupe du Monde, attendue, espérée, rêvée depuis maintenant 6 ans, ne débute enfin. La grande fête du rugby va durer près de 2 mois, 48 matchs au programme, 9 villes et stades français visités, et 20 équipes qui rêvent de succéder à l'Afrique du Sud, vainqueur de la précédente édition en 2019 au Japon. Une Coupe du Monde qu'RMC va vous faire vivre comme si vous y étiez, puisque si vous n'avez pas pu obtenir les précieux sésames pour entrer dans les stades, il vous suffira d'allumer l'appli RMC, de découvrir la radio numérique où seront diffusées toutes les rencontres. Et les matchs les plus importants, vous les vivrez également sur l'antenne premium d'RMC, qui va faire une place incroyable à cet événement qui l'est tout autant. Un mondial qui débutera vendredi au Stade de France par une affiche digne d'une finale. Que rêver de mieux qu'un France-Nouvelle-Zélande pour ouvrir les festivités. Un match de prestige, mais pas que. La victoire, vous allez le voir, est capitale dans cette rencontre pour la suite de la compétition. Alors, dans quel état se présenteront vendredi les deux formations? La France, après sa magnifique prestation contre l'Australie dimanche dernier, a connu une rude semaine avec les forfaits de Danti puis de Willemc. Ces blessures rebattent-elles les cartes des Bleus, qui avaient été plutôt bien servis jusque-là? On en parlera dans un instant. On écoutera Fabien Galthié, sélectionneur, qui donnait hier sa première conférence de presse d'avant mondial. De leur côté, les Blacks ont passé la semaine à panser leur plaie après la rouste infligée par les Box. Les Blacks sont-ils prêts? Quel visage vont-ils montrer, celui rayonnant du mois de juillet ou celui plus terne de la défaite face aux Box il y a 10 jours? On se posera la question. On évoquera également les autres sélections qui composent cette poule A, la Namibie, l'Uruguay, l'Italie, que nos Bleus affronteront tour à tour jusqu'au 6 octobre prochain, en espérant sortir premier de leur poule, même si cette position ne les préservera pas d'un terrible quart de finale face à l'Irlande, l'Écosse ou l'Afrique du Sud. Que de beaux moments exaltants, inquiétants et euphorisants nous attendent durant les 8 prochaines semaines. On a tous hâte que ça débute. Et cette Coupe du Monde, on va évidemment la vivre avec toute l'équipe des poteaux sur le pied de guerre à quelques jours de l'ouverture. C'est le cas évidemment de Denis Charvet. Salut mon Denis.
Salut.
Dans quel état tu es?
Impeccable.
Ouais, impeccable, impeccable. Pas de joker médical, on compte sur toi, t'es sûr?
J'ai envie d'y être.
T'as envie d'y être?
Comme toi d'ailleurs.
Eh ben, tu m'étonnes.
On sera ensemble,
également de la partie, notre chef vénéré, quand je pense qu'il m'a amené les cafés il y a 12 ans en Nouvelle-Zélande. Il disait, monsieur, aussi, il baissait les yeux aujourd'hui. Je dois presque le vouvoyer. Ça va, Wilfried?
Salut, Christophe. Ouais. Moi, tu nous as fait un podcast dans le sommaire, là. Hein.
Ouais. Ah bah, il faut bien présenter, là. Mais tu sais, on fait un podcast long. Hein. On a décidé de faire des podcasts d'une heure et demie.
Non, on est pressé. Ouais,
ah, comment ça, t'es pressé? Non, t'es pas au courant.
Il a rendez-vous avec le président, quand même.
Avec le président. Ouais, ouais, ils sont de la même taille, ça va être bien.
Salut à tous.
Et puis, celle qui, en seulement quelques jours de présence, quelques semaines de présence sur RMC dans les poteaux, s'est imposée naturellement. Voici Winnie Claré.
Comment ça,
Winnie? Winnie qui est habillée en irlandaise. Ah, ouais. Elle a choisi son camp.
J'ai choisi une robe verte aujourd'hui. Bah, voilà.
Bah ouais.
Mais vous allez voir, pendant le mondial, il y en aura toutes les couleurs. C'est pas grave.
Ah.
Le cœur est bleu, évidemment.
Ah, oui.
Le cœur
sera en bleu, blanc, rouge.
Et puis évidemment, que seraient les potons sans la présence de Manu Massicard de retour après. Il est là, il a la moitié mois de vacances. Non, il paraît qu'il était un peu là cet été.
Bien sûr, j'étais là.
Un petit peu de temps en temps,
ouais. Si, était là.
Entre deux semaines de vacances.
Vous êtes tous en train de vous la couler douce là, les titulaires.
Comment
il va, Manu? Vous pouvez balancer les amis. J'étais là au mois de juillet, j'étais là au mois d'août. Quand Templier était en train de se faire dorer la pilule à La Rochelle. voilà. Oui, effectivement, je travaille 2 jours par semaine. Et puis, voilà.
Bon, Manu, j'imagine que pour toi aussi et pour Midi Olympique, c'est un moment très particulier. Une Coupe du Monde, d'ailleurs, il y a un numéro spécial, là, je crois. Hein.
On a lancé un numéro spécial cette semaine. Il y en aura un autre jeudi, qui va sortir jeudi, qui pèse très, très lourd. 48 pages pour vous présenter toute la Coupe du Monde et la Nouvelle-Zélande. Et puis, c'est une émission télé tous les soirs. C'est un podcast Le Chant du Coq tous les matins à 8h30 pour venir en complément des poteaux. Voilà, c'est plein de petits plaisirs qu'on va tenter de partager avec vous.
Fais ta pub si tu veux, hein, vas-y.
Écoute.
Non, parce que les secondes de pub sont très chères sur Entre les poteaux, là. On va te facturer le.
Avec tout ce que tu me payes, Wilfried Templier.
France-Nouvelle-Zélande pour débuter cette Coupe du Monde et peut-être pourquoi pas pour la terminer dans 8 semaines, sait-on jamais. Les Bleus contre les Blacks, c'est en tout cas un grand classique du rugby mondial et de la Coupe du Monde.
On va voir quelle sorte de AK vont exécuter les Blacks.
Je pense que ce France-Nouvelle-Zélande, ça sera quelque part un petit peu un match qui va rentrer dans l'histoire.
Le premier défi de ce quart de finale.
Les Français, qui après avoir été en flash, se sont regroupés tous en ligne, ils sont approchés. Les Blacks ont franchi la ligne médiane. Le frisson.
Les Français ont osé quelque chose.
Nous, les Français, on adore les All Blacks. C'est une équipe qui inspire.
Deux mètres de la ligne.
We're excited to be here today. You know, like every country, the World Cups are such a special time.
Accélération de Michelac, il y a du soutien à l'extérieur, il faut lui donner au soutien. Ouais, Jean-Jean.
Ils ont perdu le ballon, il a récupéré au loin, au fond.
Un ballon par-dessus.
C'est fait.
Oui,
c'est fait.
Le match va être dur, ça va être difficile. Il faut faire une grosse préparation.
En avant, en avant, on a gagné, on a gagné, on a gagné,
on a gagné,
on a gagné.
Voilà, quel grand moment, on a reconnu la verve de François Pesanti, Laurent Depré, évidemment, Vincent Moscato, Wilfried Templier.
Non, justement, la victoire historique des Bleus, la plus large en 2021, et Pierre Hermé n'a pas voulu me mettre de feu.
2016,
c'était les matchs de Coupe du Monde.
C'est pas grave,
tu n'as pas encore fait de grands matchs entre la France et les All Blacks. Ça va être ton premier, mon petit bonhomme. Depuis 1987, Bleus et Blacks se sont affrontés à 7 reprises en Coupe du Monde pour un bilan de 5 victoires à 2 pour les Kiwis. 2 victoires seulement, mais quelle victoire, hein, la demi-finale de 99 à Twickenham et le quart de finale en 2007 à Cardiff. 2 matchs de légende du rugby français. Denis, t'as eu la chance, toi, et à la fois la tristesse aussi de disputer le premier de ces 7 matchs. C'était en 87, la première finale de la Coupe du Monde.
Il y en avait 6 à l'époque, parce qu'on était 4 en poule. Donc il y avait 3 matchs de poule et quart demi-finale. C'est 6 matchs, c'était.
Oui. 6 matchs dans la Coupe du Monde, ouais.
Oui,
mais t'as disputé un seul match face à la Nouvelle-Zélande, je veux dire.
Ben oui. Ouais.
Oui.
Non, monsieur te demande, en fait.
Ah oui.
Refais-la, Christophe.
Ben, il refait la question.
on coupe et on reprend.
On dit, oui, on coupait, bien sûr.
Non, voilà, le premier des France-Nouvelle-Zélande en Coupe du Monde, toi, tu l'as disputé.
France,
ça, tu comprends là ?
Nouvelle-Zélande, là. Noir,
oui, en finale de la Coupe du Monde.
Voilà.
Oui.
Ça reste quoi pour toi ?
Un énorme souvenir et en même temps une énorme désillusion, car on est passé un peu au travers et. Et quelque part, on avait joué la finale avant la lettre, une semaine avant en Australie. Donc oui, c'est avec le recul, le regret de ce match, c'est qu'on l'a mal préparé, voilà, tout simplement. Ouais.
Oui, parce que comme souvent, l'équipe de France a disputé sa finale une semaine plus tôt. C'était le cas en 99 aussi, lorsqu'elle bat les Blacks. Là, vous aviez battu l'Australie, c'était un match énorme, une victoire incroyable. Et derrière, ça a été dur, comme ça avait été dur face à l'Australie en 99, quand on perd la finale, évidemment. Bon, on espère que cette fois-ci, on ira jusqu'au bout et qu'on disputera une vraie finale. Encore faut-il y aller. La rencontre entre ces deux nations phares du rugby mondial, les rencontres ne sont pas des matchs comme les autres. Jouer les Blacks, ça fait peur. Hein. D'ailleurs, cette semaine, vous avez rencontré les Bleus, Winnie et Will. Dans quel état sont-ils avant d'affronter les Blacks ? Est-ce qu'ils s'en font une joie ou est-ce qu'il y a un peu de frayeur dans leur regard ?
Il y a déjà beaucoup d'appétit. Hein. On l'a entendu notamment dans la bouche de Charles Olivon, de troisième ligne des Bleus, qui disait qu'il fallait se rendre compte de la chance qu'ils avaient de disputer un sommet du rugby mondial, surtout que c'est la première fois que pour un match d'ouverture de Coupe du Monde, on aurait une telle affiche, France All Black. Il disait, mais je pense que ça va être un match qui va être gravé dans l'histoire. Et il faut se rendre compte de ça. Donc avant même de parler de pression, d'appréhension, de préparation, ils sont d'abord là pour jouer ce match exceptionnel et prendre un maximum de plaisir. Après, on peut aussi imaginer tout toute la charge et la pression que ça peut engendrer.
Franchement, c'était la première conférence de presse avec Fabien Galthié et Antoine Dupont et puis des joueurs. Avec World Rugby, c'est assez réglementé. C'est top player. Donc on avait des tauliers hier en conf de presse.
Ouais.
Et c'est vrai que franchement, les gars, d'avoir en face de nous Grégory Aldrit et Charles Olivon, ça faisait taulier. On est rentré vraiment dans la Coupe du Monde en fait hier. En les voyant, ils ont commencé à parler de ce match et en se disant, moi franchement, je trouve qu'on a de la chance d'avoir de joueurs comme ça. On va en parler de cette équipe qui est quand même extraordinaire, mais à Olivon, taulier à Toulon, Aldrit, taulier à La Rochelle, et là ils sont ensemble en équipe de France. Et les voir comme ça en conférence de presse, je trouvais que ça dégageait quelque chose.
Il y avait Dupont aussi, non, à la conférence de presse.
Il y avait Dupont aussi, il y avait Marchand, ça va aussi. Ouais, non, mais moi j'ai trouvé les deux troisième lignes ensemble.
Que les capitaines.
Une connivence entre eux, une complicité, c'était.
Après, il parle de chance de jouer ce match-là. Je pense que c'était pas une chance de jouer la Nouvelle-Zélande au premier tour.
Mais bon. Tu joues l'Irlande, joue l'Afrique du Sud. C'est vrai qu'il y a d'autres poules qui sont plus faciles.
C'est-à-dire qu'il y a une partie du tableau qui est quand même très compliqué, avec la France, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Irlande. Et de l'autre côté, Manu, c'est vrai que c'est pas aussi dense quand même. Hein. Le tirage au sort a été violent quand même. Hein.
Ouais, le tirage au sort, il est violent, mais bon, à un moment donné, tu vas déchouer les Blacks. Alors bon.
Bah, il vaut mieux le plus tard possible.
Ouais, si tu veux. Ça me dérange pas. Franchement, ça va poser la magie de cette Coupe du Monde. Je pense qu'on peut les taper. Je pense qu'on va les battre. Et je me dis que finalement, c'est le plus beau des tirages au sort et c'est la plus belle des programmations.
Oui, mais c'est la plus belle et c'est le plus beau tirage si tu gagnes. Moi, je reviens à ce que je dis depuis le début.
Ah bah
je
c'est
dis
sûr
que...
qu'il ne faut pas faire comme en 2007, quand tu avais perdu lamentablement contre l'Argentine.
Pour moi, ce match, 50-50, même si c'est le public qui va mener un supplément d'âme.
Alors, depuis 15 jours, tu nous dis les Français vont taper les Blacks. Et là, aujourd'hui, tu dis c'est du 50-50. Non, mais ça y est, tu es en train de tempérer ton optimisme.
Mais non, mais je ne dis pas ça. Évidemment qu'on rêve de tout ce qui gagne. On n'est pas là pour... On n'est pas des devins, on ne sait pas ce qui va se passer, mais si tu veux, pour moi, ce match, il est déterminant. Pour moi, c'est indispensable qu'on gagne.
Mais bien sûr.
C'est indispensable.
Mais bien sûr.
Parce que
Denis, si on ne gagne pas... Il vaut mieux commencer par les Blacks que contre la Namibie et l'Uruguay. Ça va intéresser personne. Cette Coupe du Monde, elle doit nous servir. Wilfried vient d'en parler. On a la chance d'avoir enfin World Rugby qui ouvre et qui met les joueurs en scène comme c'est pas possible. Nous, on sort du top 14 où on voit... Pour présenter une affiche, on voit le remplaçant du remplaçant et le troisième entraîneur. Là, on voit les cadors, ils sont tous là au rendez-vous. Et bah, tant mieux qu'on joue les Blacks d'entrée. Ça va poser cette Coupe du Monde tout en haut de l'affiche. Et après, il faut gagner pour y rester.
Ouais. Alors, d'un autre côté, ok, tu bats les Blacks, tu termines premier de poule. Si tu perds, de toute façon, tu vas rencontrer ou l'Afrique du Sud ou l'Irlande, ou peut-être l'Écosse en quart de finale. C'est la pêche ou le choléra en quart de finale. Est-ce que ça change vraiment beaucoup de choses de gagner ce premier match face aux Blacks? Pour la confiance, d'accord, mais en termes mathématiques et en termes de.
Souvenez-vous le traumatisme de l'Argentine en 2007 quand même.
Ouais, mais on bat les Blacks à Cardiff.
On bat les Blacks, et on en reprend une en troisième place contre l'Argentine.
Mais moi, j'ai un truc que vous anticipez pas. Si on perd contre les Blacks, je ne squatte absolument pas. Mais on est en train d'extrapoler.
Ouais.
Imaginons qu'on se retrouve à Lyon, dernier match contre l'Italie.
Ah oui, grosse pression.
Non,
c'est pas la pression, c'est que l'Italie, ils sont pas si mauvais que ça. On a failli perdre. C'est à Lyon, c'est un contexte. C'est pas le Stade de France.
Alors, Denis nous dit qu'on va battre les Blacks, mais qu'on risque de se faire taper par l'Italie.
Je vais au bout du raisonnement. On battra l'Italie.
C'est typiquement français, ça.
Mais écoute-moi, Manu. On battra l'Italie. Ce qu'on formalisait du jus. Dans la préparation, dans
c'est
tout.
Ça. C'est si dans la veux, gestion.
Si tu vas arriver au quart de finale avec une gestion qui n'est pas la même que si tu gagnes le premier match.
Oui,
c'est ce que je dis. C'est-à-dire que je suis en train de discuter, de parler par rapport au quart de finale.
Et puis la confiance un peu. Quoi, pour la confiance. Imaginez les Blacks dans ce match d'ouverture.
Imaginez que le match de l'Italie, c'est un match pour la qualif. Ça change tout. Dans toutes les semaines de la phase de poule, dans la gestion de son groupe. On se dit, c'est un match couperet, alors que ça ne devrait pas en être un, forcément.
Après, le match face à l'Italie, de toute manière, il va falloir le gagner aussi, parce que
dans
les Blacks.
Cette phase de poule, ce n'est pas du tout la même.
Denis l'a dit, il ne faut pas extrapoler. Denis se met à employer des mots aussi.
Savant.
Ouais,
il a fait un stage de remise à niveau quand même pendant l'été.
Tu as compris, j'avais peur que tu comprennes
pas. Il a été touché par les grâces, attention. dans l'autre poule, parce qu'on va croiser avec l'autre poule, Irlande, Afrique du Sud, est-ce qu'une défaite nous envoie pas dans la gueule des box?
Mais on ne sait pas, c'est justement ça, on ne peut pas anticiper le croisement de ces poules-là.
Mais une victoire nous envoie dans la gueule de l'équipe qui vient de réaliser le
premier match. C'est l'éternel débat en fait.
Il a raison de le dire dans la mesure où est-ce que l'Irlande n'est pas capable de battre l'Afrique du Sud. Donc si vous dire, et l'Écosse, donc l'Irlande finirait premier. Ou fait l'Afrique du Sud.
On va battre les box, on va
dire.
C'est très hypothétique, c'est très hypothétique.
Bon, on va s'intéresser quand même à cette équipe de Nouvelle-Zélande, hein, premier adversaire évidemment. Depuis leur défaite 40-25 au Stade de France, celle que tu as commentée, Wilfried, en novembre.
Ils étaient cuits.
En novembre, oui, voilà. C'est vrai qu'on a eu un peu tendance à ce moment-là, depuis ce moment-là, à les mettre de côté, à dire, bon, voilà, c'est plus les Blacks d'antan, ils sont pas favoris de la Coupe du Monde. Et est-ce que c'est toujours le cas? Pour vous, leur campagne de l'été 2023 les a remis dans le jeu. On va parler ensuite de leur défaite face aux Box. Manu, est-ce que les Blacks, on les a écartés un peu de manière un peu trop cavalière, à ton avis?
Oui, après l'année 2022, on les a effectivement écartés trop rapidement. Mais après, ils avaient tout fait pour qu'on leur tape dessus. Hein. Mmh. Ils ont perdu contre nous, ils ont perdu contre les Irlandais. C'est certainement pas une très grosse génération. C'était pas une très grosse équipe non plus. En revanche, on voit qu'ils sont revenus à leur niveau, quasiment à leur niveau, cet été. Et on parlera tout à l'heure de leur défaite contre les Box. Moi, je retiens davantage leur victoire dans le rugby championship, avec des équipes remaniées largement, parce qu'il n'y a pas que nous qui faisons tourner, eux aussi ont largement fait tourner.
Ouais. C'est quand même assez difficile de se faire une idée. Bon, Manu veut retenir l'image du rugby championship. Toi, tu retiens l'image de la défaite face au box.
Non, mais c'est même pas un accident.
Match de préparation.
Mais d'abord, le match contre les Springboks, je suis désolé, ils font la première mi-temps, ils passent pas au travers.
Les 20 premières minutes, surtout.
Les 20 premières minutes. Oui, non, mais ils tiennent. Le problème, ils tiennent en défense, attention. Ouais. Donc, sachant qu'il y avait un décalage horaire.
Tu oublies une chose, Denis, c'est le carton rouge qui change tout.
Mais c'est ce que
tu as raison. Tu as raison, ils sont dominés sur la première. Au début de match, mais ils sont pas largués non plus.
Non, ils sont pas largués.
Et le carton rouge change
malgré
tout.
Mais les box sont pas réalistes quand même.
Attendez, le carton rouge change tout et le score nous fait dire que. Mais après, si tu analyses bien ce match-là, avec le décalage horaire, l'engagement que tu peux pas émettre nécessairement dans ce match contre les Springboks, moi tout ça je l'oublie. Moi, pour moi, je raye ça. Je préfère me concentrer sur ce que j'ai vu au mois de juillet et août. Et là, je me dis quand même que les Blacks sont revenus, les Blacks.
C'est la pire des choses, cette défaite pour nous.
La charnière.
Ils sont humiliés, là.
Oui, et puis devant, contrairement à ce qu'on avait vu en 2022, dans l'engagement, ils ne sont plus les mêmes.
Ah, franchement, en rugby championship, ils ont
cabossé les Blacks. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont plus agressifs. Ouais. Et vous allez voir que vendredi, ils vont y mettre l'intensité ou l'agressivité. Fabien Galthié, il le sait pertinemment. Les joueurs le sont prévenus. Mais ça va être un rude combat.
On va écouter le sélectionneur des All Blacks, Ian Foster, justement, interrogé sur cette défaite face aux box à Twickenham, est-ce qu'elle les a marqués? La réponse donc du coach des All Blacks.
On a quand même fait une tournée très solide avant ce match, enfin jusqu'à ce match. Je crois que si on regarde à nouveau ce Afrique du Sud-Nouvelle-Zélande, il y a vraiment beaucoup de faits de jeu, des blessures de joueurs très rapides, et puis on n'a pas su s'adapter à la stratégie sud-africaine avec un seul homme dans les rucks. On avait un pack très jeune, mais je crois que c'est une très bonne leçon. On est heureux d'avoir payé. On a payé, et ça va nous rendre meilleurs.
Ça va nous rendre meilleurs.
Ah oui, ils sont revanchards. Mais bon, après, il leur manquerait Talik. Je trouve ça scandaleux que Scott Barrett ne soit pas suspendu. Mm-hmm. Après ce qu'il a fait contre l'Afrique du Sud. Le mec l'a plongé Malcolm Marks, épaule en avant.
Mais la règle,
il a eu qu'un deuxième
carton jaune. Donc.
Il y a deux discours, il y a deux situations. Oui, les arbitres, c'est jamais pareil. Le public n'y comprend rien à chaque fois.
Non, c'est pas ça. Si, parce que deux cartons jaunes, on dit que c'est déjà.
Le geste en lui-même.
Oui, mais le geste, il n'est pas puni, le geste. Tu veux.
Wilfried, moi, je pense pas.
Et non, moi, je pense pas, moi non plus.
Pour moi, il impacte sur la poitrine, il n'impacte pas sur la tête.
Ah ouais, bah ça va alors.
Tu le sais qu'il y a des circonstances atténuantes. Oui. Ils le prennent en compte dans le degré du carton.
Mais
et bah ça en
avec
fait
votre
partie.
Protégeons les joueurs, vous
mais
rendez
non.
compte leur santé,
mais,
machin.
Mais on n'est pas en train de te dire qu'ils ont raison ou tort. Mais en tout cas, c'est le facteur d'explication qui est donné.
Ah bah il y a pas de vitesse. Mais
ouais, mais au même titre, au même titre que dans ce cas, il n'y a pas de gradation.
Il y a toujours des choses qui changent. Il y a évidemment que
le. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Le geste, il est litigieux. Le mec, il arrive en retard. Il arrive sur le côté. Oui, il balance l'épaule. Mais il ne touche pas la tête. Donc, à partir de ce moment-là, l'arbitre, il est dû prendre en compte cette circonstance atténuante. Il y a deux cartons jaunes. On a considéré que l'exclusion pendant le match était une peine suffisante plutôt que l'exclusion.
Mais Wilfried,
mathématiquement, c'est pas non plus.
Mais Wilfried, heureusement qu'on ne va pas dans les extrêmes parce que sinon, il y aura des cartons.
Demande à Georges Boala qui a pris 10 semaines quand il y a des mecs quand Farrell prend rien sur le coup
c'est sûr.
Mais Farrell,
ça, c'est
ce qu'il fait contre le Pays de Galles.
Oui.
Mais
c'est scandaleux. C'est un scandale.
Là, une idée,
ça, c'est un scandale.
Et finalement,
Manu...
World Rugby fait appel. Et ben, heureusement, parce qu'il y a eu polémique.
Bon, anglais. Est-ce qu'on a une idée des consignes qui ont été données aux arbitres pour cette Coupe du Monde? Est-ce que la tendance est à justement monde très, très sévère?
On va le voir, sur les premiers matchs de Coupe du Monde, ça va être d'entrée.
Mais Christophe, moi j'ai peur des cartons rouges à ce Coupe du Monde. Moi, c'est
mais
le seul
tu vas
qui
en
a fait
avoir,
peur.
Selon toi.
Mais
tu vas en avoir.
Oui, il va y en avoir. C'est sûr et certain parce qu'en plus.
Normalement, les consignes sont comme ça.
Les consignes sont comme ça. Ils vont être très durs.
Décisions qui vont être prises rapidement avec l'histoire de.
Mais donc, attends, mais je suis bien d'accord. C'est un jaune qui prend en plus.
Oui.
Même pas rouge direct.
Non, c'est ce que je te dis. Deuxième jaune, exclusion. Et en fait, il est passé au bunker ce deuxième carton jaune. Et en fait, on a décidé la VAR a décidé de ne pas transformer en rouge.
Ah,
mais c'est bien pour ça que ça fait jaune.
Ça valait pas rouge.
Mais non, mais la décision, elle est bonne.
Wilfried, il y a un débat éternel
la décision est bonne parce qu'il a eu un jaune, il n'a pas eu de rouge.
Il aurait Wilfried eu un rouge, il aurait été suspendu.
Non, mais Wilfried considère qu'il aurait dû avoir un rouge.
Mais non, Wilfried, avec le bunker, tu passes au jaune d'abord, oui, et c'est le bunker qui décide si c'est rouge.
Si c'est orange ou
pas.
Non.
Oui, ça, j'ai compris.
Mais
c'est, ah, coup, c'est parce qu'il a eu, il n'a pas eu rouge direct sur
son jeu. Dames, on va pas faire tout le podcast là-dessus, parce qu'on a quand même plein de choses à dire. Et Wilfried découvre quand même qu'il y a eu ce match entre les Blocks et les Blacks.
Est-ce qu'on pourra couper Wilfried au montage?
Ah, mais si je l'avais en moi, il fallait que je sorte.
Ah oui, oui.
Tout ça pour dire que sur le. Ils se sont fait massacrer contre les Box. Ils se sont fait massacrer devant. Ouais.
En plus, pas en première mi-temps.
Ils font rentrer 7
avant. Non, je suis pas d'accord.
Pas quand ils sont à 14 contre 15 et que pendant 20 minutes, ils tiennent sur leur ligne.
Et j'attends de voir cet affrontement avec l'équipe de France qui est moins dominante ces derniers mois, qui n'est pas l'équipe de France dominante de 2022 physiquement, qui passait sur ses adversaires. On a perdu du monde. On a perdu Willemse notamment. Ouais. On a des points d'interrogation en deuxième ligne. Bay n'est pas là. Danti, on va voir.
Jelonche n'est pas là
pour ce match. Attends, vous savez très bien, Denis, le rugby devant, sur l'impact, gagner ses duels. Et les Blacks seront là aussi dans l'intensité.
Tu es en train de dire qu'on est affaibli. Évidemment qu'on est affaibli. On ne peut pas dire le contraire.
Il te manque 5 joueurs majeurs par rapport à
5 joueurs majeurs. Donc évidemment qu'on est affaibli. Mais cette équipe de France, la force de cette équipe de France, c'est à s'adapter. Et on va voir comment elle va s'adapter avec une équipe qui est remodelée. On va voir. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir s'ils vont encore à nouveau nous surprendre. Parce que chaque fois, ils nous ont surpris. Alors, le seul quoi qu'il y a eu, c'est en Irlande, où on a été un peu dépassé, pris partout à la gorge. Mais après, depuis 3 ans, 4 ans, on s'est toujours adapté. Alors, pour l'instant, on parlait des Blacks, là. On va parler de l'équipe de France après. Vous avez décidé de casser le fil conducteur d'entrée pour le premier poste.
Denis Wilfried, attention.
Après, c'est carton jaune. Bunker. Ouais. Je suis un peu inquiet parce que si on n'a pas Jonathan Danti, ils ont mis Scott Barrett quand même. Pas Scott Barrett.
Jordi Barrett
en position de premier centre.
Il y a toute la famille
justement
Barrett.
Pour aller dans ses points de fixation. Scott Barrett est quand même assez solide en deuxième ligne. Faut voir si Frizzell, le troisième ligne, qui était cabossé les boxes à lui
pour le match d'ouverture, Shannon Frizzell. En troisième ligne.
Alors ça, c'est une perte pour eux. Parce que moi, il m'a impressionné pendant le Rugby Championship. C'était un Jelonche en Maori. Il est passé sur tout le monde. Donc voilà, sur ces duels, je suis curieux. Vous savez très bien, Denis, tu l'as dit, dans l'agressivité, ils seront là. C'est pas l'équipe Exang qu'on a battue en 2021, qui était au bout du rouleau, qui avait des semaines et des semaines de tournée en bulle sanitaire.
Bon. Les Néo-Zélandais ont souvent eu dans leur rang des joueurs qui ont fait la différence, des match winners, Mako, Carter, Barrett, Lomu, ou plus loin les Kirwan et autres Fitzpatrick. Aujourd'hui, quel est celui justement, le All Black, qui pourrait faire la différence, le mec qui a un talent supérieur à la moyenne, qui peut devenir la star de la Coupe du Monde?
Moi, il y en a un qui me plaît, mais il était passé un peu au travers ces dernières années, il est revenu au top niveau, c'est l'ouvreur, Mwanga.
Ouais, Richie Mwanga.
Qui est un joueur extraordinaire.
L'un des meilleurs du Super Rugby.
Il a fait des matchs incroyables. Il est dominant, il avance, il est pénétrant. Il a une lucidité. Voilà, alors il a été très bon il y a 2-3 ans. Il a eu un creux. Le creux qui correspondait aussi à ce creux de tous les Blacks. Et là, il est revenu au meilleur niveau.
C'est
le taulier. Ouais. Pour moi, c'est le taulier.
Moi, j'ai peur de Rieko Ioane.
Ioane qui est revenu en grande forme.
Il
est revenu en forme parce que lui aussi, il avait.
Rappelez-vous, c'est lui qui marque l'essai au stade de France quand il prend le trou devant nous, là, aux 40 mètres. Fou.
Non, mais les deux, l'association Jordi Barrett et Ioane, ça va être un énorme challenge pour cette paire de centres.
Et Smith qui est revenu en très bon niveau aussi. Le demi-mêlé qui est.
Et alors, on me souffle aussi le troisième ligne centre. Ardi Savea,
lui est bon.
Qui a fait un été juste exceptionnel aussi avec les Blacks. On a une troisième ligne qui est solide. On a Scott Barrett qui devrait être associé à Sam Whitelock dans l'attelage de deuxième ligne. On a Bowden Barrett. De toute façon, les trois frères Barrett, je les ai trouvés exceptionnels cet été. En 15, au centre, comme en deuxième barre. On a solidifié le paquet d'avant, on a un centre qui est une dynamite, on a un 15 et on a aussi un 10, on a des meneurs de jeu exceptionnels. Moi, je me dis attention à cette équipe qui a du talent.
Hartung.
De la solide. Non, mais qui est solide.
Et qui a les crocs
comme jamais, quoi. Ça suffit.
Mais Winnie, c'est un match de Coupe du Monde. On va leur marcher dessus.
Antoine Dupont, Greg Aldrit, Olivon, tous ils l'ont dit. On a bien lu la presse néo-zélandaise. On a vu les gifles qui se prenaient là depuis la défaite face aux Box. Et vous inquiétez pas qu'ils vont se servir de ça pour relancer la machine bien fort.
Après les Bleus, ils ne pensent qu'à ça. Pas tout le temps, mais qu'à ça. Écoutez le capitaine Antoine Dupont.
prépare pour ça depuis 4 ans. C'est le match d'ouverture de notre mondial en France. Donc oui, on y pense beaucoup. Malgré ça, il faut arriver à avoir toujours un peu de détachement, de recul pour pas que notre tête 100% de la journée qui soit prise sur ça, arriver à garder cette fraîcheur, ce naturel qui nous caractérise tout en gardant ce sérieux et cette intensité qu'on sait mettre dans les moments importants.
La différence, c'est qu'en fait, si on réfléchit bien, ils n'ont jamais joué les vrais Blacks, les Français. Ces Français-là, cette génération-là. C'est la première fois qu'ils vont rencontrer des Blacks à la hauteur. Et ça va tout changer.
Oh. Ah, je suis pas tout à fait d'accord. 2021, ils jouent une grosse...
Non, ils jouent pas une grosse...
Ah d'accord.
Ah non, je pensais qu'ils étaient cuits les Blacks.
Mais non, ils étaient cuits, me dis pas.
Ils pas la prestation Manu hein, des Français.
Non,
hein,
non, c'est pas
c'est
ce que je veux dire,
c'est tourné, on est d'accord hein, à l'époque.
Non, mais ils étaient trop
éreintés les gars.
C'est pas ce que je veux dire, c'était pas la grande équipe des Blacks, mais il y avait de très bons joueurs sur le terrain. Par contre, c'était pas une bonne équipe.
Oui, mais c'est ce que je dis. Je dis bon, c'était même pas une vraie équipe de Blacks parce que ils ont démissionné très vite alors que les Blacks ne démissionnent pas vite comme ça.
Mais on le sait tout le temps hein que en juin les Français sont cuits quand ils vont en tournée dans l'hémisphère sud et qu'en novembre les équipes de l'hémisphère sud arrivent, ils sont cuits aussi physiquement. Donc c'est vrai que là, ce sera d'égal à égal. C'est ça qui est génial, parce que
oui,
bon, on va parler de Noble aussi, mais on a quelques arguments. Enfin, je sais pas, le fil conducteur.
Allons-y, vas-y.
Non, je te propose.
Ouais, alors,
je
la poubelle.
Vas-y, alors. On va parler des Bleus, évidemment. Alors, on s'est amusé à se faire peur là avec ces All Blacks, quand même, qui semblent quand même redoutables. On ne les a jamais joués comme ça. Et ils ont des monstres à tous les niveaux. Cette défaite face aux box les a ressoudés, les a motivés comme jamais. Moi, vous me filez la trouille, d'autant que tu le disais tout à l'heure, Wilfried. L'équipe de France a vécu quand même une semaine très compliquée. Après être ressorti du Stade de France et cette victoire face à l'Australie qui leur a donné plein d'allants. Derrière, il y a la blessure de Danti, il y a la blessure de Willem C, il y a l'affaire Chalurot. Ça a été la semaine de tous les dangers quand même pour le 15 de France.
Ouais, il faut qu'il reste serein hein, parce que ça fait beaucoup. Hein. Si on rajoute Baye, Ntamack, voilà, Manu le disait, des joueurs majeurs. Alors si on compte Jelonche aussi, qui n'est pas encore revenu, qui était forfait avant, qui doit revenir, ça fait quand même beaucoup d'éléments, que ce soit dans le 15 titulaire, dans le roulement. Et puis. Ntamack, bon, on en a parlé déjà, hein, Mathieu Jalibert est là pour prendre le relais, même si c'était un coup dur, Danti, si ça arrive, c'est notre pierre angulaire du milieu de terrain.
Ouais, enfin, Danti, c'est pas joué encore, les enfants.
C'est pas joué encore.
Oui, parce qu'on nous annonçait dans un premier temps qu'il était forfait. Galtier, hier, dit il n'est pas encore forfait.
Moi, j'attends de voir.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prendre le risque de le péter définitivement?
Il y a un entraînement à haute intensité aujourd'hui normalement. Donc
il va faire l'entraînement à haute intensité.
Ouais. Exactement.
Bah, ça, il n'y a que le joueur qui peut le savoir.
Ils vont le tester. On va le voir cet après-midi, puisque nous sommes lundi.
Moi, je pense qu'ils prendront aucun risque.
Non, mais ça, c'est encore autre chose. Est-ce que Danti était forfait pour le premier match? La réponse est non. Il est touché. Le timing veut qu'il peut encore revenir. Est-ce que l'équipe de France prendra le risque de le faire jouer ou pas? Ça va être toute la question. Et comme dit Wilfried, l'entraînement du jour est très important.
D'autant que traditionnellement, cet entraînement à haute intensité, un joueur ne peut pas y participer, dans ce cas, il ne peut pas candidater pour le match. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit tout l'été.
Donc, est-ce qu'à 4 jours des Blacks, à 4 jours à match d'ouverture de Coupe du Monde, on en est à se faire des nœuds dans le cerveau? Tu peux jouer, tu peux pas jouer?
Alors, bah oui,
il est tellement important.
Moi,
quand il s'est blessé, on m'a dit 2 semaines mort pour les Blacks. 2 semaines.
Moi, il y a
2-3 semaines.
Moi, il y a un truc qui m'étonne, c'est
moi, c'est parce qu'on m'a dit 15 jours et ça sera. Il récupère très vite.
Il a toujours récupéré très vite. Ouais, ça, c'est. Mais non, mais s'il récupère vite et qu'il s'en sente le capable, il va jouer.
La vérité,
le joueur va toujours te dire qu'il se sent capable de jouer le match d'ouverture de la Coupe du Monde face aux
Blacks.
Faut pas lui demander à lui.
Mais non, on n'est pas 20 ans en arrière aujourd'hui.
Ah, c'est fou.
Aujourd'hui, ils sont préparés, ils sont dans des. Franchement, aujourd'hui, tu sais exactement où t'en es. Ils vont refaire des IRM, des trucs comme ça.
Mais vous pensez, c'est pas risqué un peu là dans le.
Moi, je ferais pas jouer
les blessures de tous les joueurs et tout, de le déchirer sur 10 cm ou.
Moi, je préserverai. Je préserverai, moi. Je mettrai Moefana et...
Ou alors le faire entrer en cours de match. Non, c'est la panade.
Appelle Fabien. Vas-y.
Après, au-delà des joueurs, moi, ce qui me fait... Moi, il y a un truc, le facteur dont on parle très peu, c'est le facteur émotionnel. Je pense qu'on ne peut pas anticiper la journée qui va. Il en parlait du pont très justement. Il dit il faut gérer ce moment qui va être extrêmement
pénible. Est-ce que la lettre de Guy Moquet va être lue?
Non, mais il
n'y
a pas de lettre de
France.
Non, il n'y a pas de lettre de Guy Moquet. C'est tellement personnel, un match, surtout ce match-là, l'enjeu qu'il y a, l'attente qu'il y a, la pression qu'il y a. ça peut être bon d'un côté comme mauvais de l'autre.
Il leur passe le spectacle de Moscato. Non, mais c'est pyramide.
Ça va les détendre.
Non, mais je pense que là, on ne se rend pas compte de la dimension aujourd'hui médiatique qu'il y a aujourd'hui pour une Coupe du Monde. Regardez, en 2007, ce n'était pas mieux. Ça n'a rien à voir.
Ce staff veut tout maîtriser. Donc, les joueurs, ils nous l'ont dit, ils en ont parlé avec ceux qui l'ont vécu, Raphaël Ibanez notamment.
Ouais, mais tu maîtrises pas l'âme d'un mec, je suis désolé, un mec.
Il ah, bah, il faut être costaud, il faut être solide.
Mais c'est ce que je te dis. Oui, mais.
En 2007, ils étaient tous. Pichotte l'avait dit, on sortait du vestiaire, on a vu la porte du vestiaire des Français ouverte, ils étaient aussi blancs que leurs survêtements.
Non, mais c'est
et
pour
nous,
ça.
Nous, on a des témoignages qu'on vous livrera cette semaine sur l'antenne d'RMC.
Donc,
ils disaient, les mecs, on était pris, on est sortis de Marcoussi, des hélicoptères, le machin, les motos, tout ça.
Mais ce facteur émotionnel, encore une fois, il joue. Est-ce qu'il sera positif ou négatif? Ça, c'est notre.
Moi, je pense qu'il va jouer en faveur d'équipe de France, là. Avec le public derrière, avec la passion, avec le soutien.
Il faut savoir que le sélectionneur a appelé tous les anciens sélectionneurs. Exactement. Pour prendre conseil, justement.
Et ils ont été dans un bain, dans plusieurs bains de foule tout au long de l'été. Ça fait longtemps. Non, pas dans un bain froid, ni rien de tout.
Ils ont pris des bains ?
Non, oui, ils ont aussi pris des bains, certainement. Non, mais ils ont pu jauger cet engouement et s'y habituer. Ils étaient dans un camping qui n'était pas totalement fermé au public. Ils ont croisé plein de monde pendant ces trois semaines à Cap-Breton.
En allant aux douches, par exemple.
Ouais, t'allais à la laverie, tout ça, ouais.
Voilà.
Faire la vaisselle.
Ils allaient à la plage, ils croisaient du monde, ils signaient des photographes. Il y avait des entraînements ouverts au public, que ce soit à Monaco, Marcoussis, Cap-Breton. En fait, et ça fait 4 ans en fait que ces jeunes-là, ils sont préparés mentalement à toute la pression qui va arriver.
Oui, mais l'événement, Winnie, je suis d'accord avec toi, l'événement, c'est autre chose.
Je pense qu'on ne peut pas
comparer un match France-Nouvelle-Zélande en ouverture d'une Coupe du Monde avec un autre match. C'est unique.
Et personne n'a dit qu'il fallait le comparer.
Non,
mais ce soir.
Denis,
mais en tout cas,
toi
qu'il soit
qui
prêt.
Justement fais les discours avant les matchs des babases, si demain, c'est possible que Fabien t'appelle justement pour leur faire un discours. Remettre les maillots, qu'est-ce que tu leur dirais
dans les cordes émotionnellement là, Ivan.
Non, mais je sais pas, là, tu veux pas prendre de cours.
Le cœur des hommes et tout ça, tu veux. Là...
Non, c'est de rester eux-mêmes, quoi. Je veux dire, c'est très compliqué. La difficulté quand tu es un sportif de haut niveau, c'est d'évacuer justement cette pression négative et de rester toi-même, de rester un petit peu l'enfant de la balle. C'est une image, mais c'est tellement vrai. C'est avoir d'être le plus authentique possible, quoi.
Mais le terrain du Stade de France, c'est comme celui des cadets de Saint-Pé-sur-Nivelle, c'est le même.
Non, mais c'est toute la difficulté. Mais et celle-là, on peut pas le prévoir. Moi, j'ai joué une finale de Coupe du Monde, c'est tellement bizarroïde que tu n'as pas l'impression de jouer un match de rugby presque. Si tu veux, c'est assez étonnant, quoi.
Bon, Manu, ton avis là-dessus, tu penses qu'ils vont être.
Moi, je pense que tu peux tout prévoir le jour du match.
Ouais, coup d'envoi, carton rouge.
Ça va dépendre beaucoup de l'adversaire. Parce que les Argentins en 2007, il y a la lettre de Guy Mouquet, mais il y a aussi Agustín Pichot. Et sa bande de
fous furieux argentins
qui avait fait monter la sauce dès le couloir. Donc au bout d'un moment, je pense que ces joueurs-là, cette génération, Dupont, Ntamack, Aldrich et compagnie, ils sont prêts à supporter la pression. D'accord. Ils la supportent régulièrement en club. Maintenant, comment ils vont réagir le 8 septembre, à 21h, j'en sais rien.
Non, mais ils l'ont beaucoup préparé, je pense.
Et ils l'ont préparé dans les moindres détails, parce que Grégory Aldrit nous a même sorti quelques infos nouvelles hier en conf de presse. Je ne sais pas s'il avait vraiment le droit, mais par exemple, le passage de la patrouille de France au-dessus du Stade de France. En fait, on leur a expliqué tout dans le moindre détail à partir du moment où ils arrivent au stade. Ouais. La cérémonie d'ouverture, les discours des uns des autres, tout ça... En fait, ils le savent comme ça. Il n'y a pas une seule seconde où les gars, ils sont pas dans leur
les
match,
qui
savent
jouent,
pas exactement ce qui se passe.
Mais moi, je trouve que c'est dans l'excès là. Je crois qu'il faut arrêter.
Ah oui, bah
faut
après c'est millimétré à la Fabien Galtier.
Non mais moi,
quoi.
Ça m'énerve là, ça me crispe quoi. On les enferme dans une espèce de cellule comme ça, tu vois.
Mais non, alors à tout dire.
Denis, t'en as pas vécu toi des matchs où au début tu comprenais pas trop ce qui se passait,
par l'émotion.
Ah mais je te rassure, là, ils vont rien comprendre non plus.
Sur le terrain, tu sais pas quand le coup d'envoi.
Il a raison, Manuel. Ils vont rien comprendre non plus là. Non mais c'est pour ça que je dis que à trop préparer c'est un risque aussi. Mais bon, comme dit Manu, on verra.
Il y a pas Pichot, on est tranquille. Pichot n'est pas là.
Il y a pas Pichot, mais pourquoi je dis mentalement, c'est-à-dire que tu peux pas prévoir un mauvais geste. Tu comprends ce que je veux dire? La pression qu'on a à l'intérieur, un joueur qui est tellement préparé, tu peux pas prévoir un mauvais geste qui peut entraîner un carton rouge. C'est ça qui me fait pas peur. C'est le risque qu'il y a.
Un tout petit mot de la deuxième ligne avec l'autre forfait de la semaine, Willemse évidemment. Ouais. C'est marrant parce que ça inquiète beaucoup moins les observateurs que celui de Danty, alors que Willemse quand même était un énorme de base du Grand Chelem en 2022.
Mais quasi logique après sa saison, 4 déchirures, ménagé au mois de juillet, et ça l'a empêché de jouer France-Écosse à Saint-Etienne. Là, il le fait en se préparant tout seul, avec le programme de préparation tout seul à Montpellier.
Et oui, tu comprends pourquoi le staff de l'équipe de France insistait tant pour avoir Emmanuel Mai à fond.
Bien sûr.
Parce qu'il savait toute la fragilité de Willemse et qu'en cas de forfait, t'es vraiment, vraiment dans la merde.
Mais c'est quand même compliqué parce que Thibaut Flamand joue à droite. C'est pas un droitier de métier, mais il l'a fait. On a battu les box avec lui à droite, avec Rookie. Par contre, après, en densité, c'est pas le gros pousseur comme Tao, comme Willemse, mais Tao a pas 80 minutes dans les jambes. Mais ça pourrait être un problème plus tard, peut-être, si on rencontrait les box.
Ils vont partir sur un attelage comme face au Boc qui était Woki et Flamand. Certes, Romain Taofifinois, c'est le seul qui a la carrure, le gabarit de Paul Willemse pour être le gros pousseur à droite de cette deuxième ligne. Mais en même temps, quand on regarde un peu le nombre de sélections de Romain Taofifinois, il y a à peine 30% des fois où il est titulaire. C'est-à-dire que on sait à quel point Fabien Galthié et son staff aiment rester sur leur base et sur leur expérience. C'est un finisseur, ils veulent le garder dans ce rôle-là. Quitte à faire décaler Flamand à droite et à mettre Woki en titulaire.
Très bien. La compo, c'est mercredi.
Mercredi. On aura déjà des indications dès ce mardi après-midi.
Ouais, des indications aussi sur le banc, parce qu'on ne sait pas encore.
Si on met 6
avant. Ouais, ce sera 6-8. 6-2, pardon.
6-8,
c'est bien. 6-8,
c'est bien. 6-8, c'est bien.
Non, mais je pensais 8 quand il y avait 8. Vous avez vu qu'il y a 7-1 maintenant.
Oui, il y a 7-1. Attention, 6-8, ça peut être aussi. Il faut faire un choix entre avec Tao, si on met Chaluro en deuxième ligne.
Moi, je pense qu'ils vont mettre les deux.
Avec Boudéan, il y a du Macalou. Voilà.
Tu peux faire 7-1.
Oui, Macalou va rentrer dans les deux.
Oui, il est hybride. Mais Boudéan aussi, tu sais, maintenant.
Oui, mais à mon avis, il va être les deux.
Pierre faisait une réflexion là dans l'oreille, dans l'oreillette. Il me dit 7-1, c'est scandaleux. Ça veut dire que tu peux changer tout ton pack.
Ouais, c'est génial.
Moi, je suis pas d'accord.
C'est génial.
Alors, Eddie Jones,
quand les Jones sont rentrés la dernière fois.
Non, mais c'est un risque énorme.
Moi, je suis d'accord avec Pierre, c'est scandaleux. Pour moi, c'est scandaleux. Oui, non, c'est scandaleux.
Tu peux rentrer les 7 et.
Mais non, parce que le rugby, c'est un combat, c'est une épreuve de force. Alors, tu changes de pack, on va arriver à jouer comme au football américain, on va changer un pack. Non,
c'est pas les amoureux de Pinocchio, les compagnons.
En attaque, là, changer les équipes.
Non, il faut arrêter ça. Et Eddie Jones, c'est très content, alors j'ai appris ça.
Les Bleus, qui outre les blessures, dont Ave donc également faire face à une polémique depuis quelques heures concernant l'appel dans le groupe de Bastien Chaluro, qui a eu maille à partir avec la justice pour une bagarre il y a un peu plus de 3 ans, qu'il avait eu une condamnation en première instance à 6 mois de prison avec sursis. Il a depuis fait appel, mais le fait aggravant, c'est que c'est cette accusation d'insulte raciste que Chaluro dément, évidemment. J'imagine, Winnie, que cette affaire a été évoquée en conférence de presse.
Évidemment.
Ça a été même l'objet de la plupart des questions.
Trois fois, et Fabien Galthié et Antoine Dupont étaient relancés. Ça a été la première question posée au sélectionneur en début de conférence de presse hier à Roland-Garros. Et on lui a demandé tout simplement, lui, ce qu'il en pensait de cette condamnation en première instance. Attention, on le rappelle, il a fait appel. Et pour l'instant, l'appel n'est pas encore passé. Donc, il y a cette présomption d'innocence autour de Bastien Chaluro et de ses violences à caractère raciste. En tout cas, le sélectionneur, il nous a bien dit, lui, son objectif pendant 4 ans, c'était fédérer, c'était partager. Écoutez.
Le racisme n'a pas sa place dans notre équipe, il n'a pas sa place dans le rugby. L'intégrité est une valeur fondamentale de notre équipe, de notre sport. Bastien nous a informés de cette affaire et nie fermement et formellement les faits. Une procédure est en cours.
Voilà, une procédure est en cours. C'est aussi ce qu'a dit le capitaine Antoine Dupont. On l'a, lui, questionné plutôt sur l'impact que pouvait avoir sur le groupe, sur le groupe tricolore, cette affaire qui ressort pour le rappel de Bastien Chaluro.
Non, nous, pour notre part, les joueurs, le groupe, on n'a pas été affectés par ça. Comme l'a dit Fabien, on était au courant de cette affaire qui est encore en instruction, je crois. Nous, le rapport qu'on a avec Bastien, ça se passe très bien. Depuis qu'il est arrivé avec nous, il a toujours eu une attitude exemplaire, que ce soit sur le terrain ou en dehors, et pour nous c'est ça aujourd'hui le principal. Notre première préoccupation, c'est le terrain, la performance, et Bastien remplit son rôle parfaitement pour le moment avec nous.
Voilà, on l'a compris. Hein. De toute façon, ce discours, on l'a entendu dans la bouche de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, du président de la Fédération française de rugby, Florian Grill. Tous sont alignés sur cette position. Laissons la justice faire son travail. Il est pour l'instant présumé innocent puisque c'est un appel qui est en cours. Et donc, pour l'instant, Bastien Chalureau est toujours dans cette liste des 33.
On sait que ce genre de choses, récemment avec Bernard Laporte aussi, qui a été poussé à la démission alors que l'affaire n'était pas terminée puisqu'il avait fait, il avait fait appel. Alors, on sait que voilà, sur une pression politique, tu peux aujourd'hui mettre la pression sur un staff ou sur un président de fédé. Messieurs, dames, votre avis sur le sujet, est-ce que c'est une sacrée épine dans le pied du 15 de France à quelques jours de la cérémonie d'ouverture? Manu, ton avis là-dessus?
La première des choses, c'est que le rugby est rattrapé par sa médiatisation et on arrive dans un momentum et dans un événement qui va nous dépasser largement. Donc les petites affaires du rugby, tu peux plus les gérer comme tu faisais avant et aujourd'hui ça nous pète à la gueule. Il fallait se poser la question avant. Ce qui est regrettable, c'est que ça soit une récupération politique sur le coup. Après, chacun en pensera ce qu'il voudra. Moi, j'ai mon avis. Je pense que il fallait régler ces questions avant. Et si tu dois prendre un mec sur son casier du judiciaire, eh ben, il faut que ça soit réglé très très en amont de l'événement. C'est pas maintenant qu'on va
se poser. Mais là, c'est pas avec AOS par exemple.
Oui, AOS, c'est passé
avant la Coupe du Monde.
Mais là, oui, mais AOS, il n'a pas fait appel.
Mais non, mais là, le problème, Manu, je suis d'accord avec toi.
Condamné,
en entièrement d'accord avec toi, excepté qu'il est présumé innocent encore.
Ah, il est. Donc, il a été condamné quand même. Oui, mais... il y a une première sanction.
Oui, mais il a fait appel. Donc, dans les termes, il est.
Si vous voulez, il y a une première sanction.
Non, mais le problème est là.
Oui, après, vous pensez de ce qu'on veut.
Il n'est pas condamné.
Exactement. Je suis d'accord, mais bon, il y a eu une première condamnation.
Non, il y a juste.
Le sujet n'avait jamais été évoqué avant cela.
Ouais,
en novembre, aucune question n'avait été posée à ce sujet.
Si tu veux, c'est le rugby, tout le monde fermait les yeux.
Moi, je me rappelle.
C'est comme ça.
Recontextualisons quand même, parce que tu parlais, Manu, de récupération politique, pour redonner bien ce contexte. Ce sont deux élus de la France Insoumise qui ont ressorti ça aussi des cartons en apprenant le rappel.
Oui, parce que ça a commencé à sortir sur les réseaux sociaux.
Et on l'entendait bien, Antoine Dupont. Et tous les Bleus, ils sont bien au courant de cette affaire. Ils étaient au courant avant. Ils ont joué avec lui chez les Bleus et ça leur posait pas de problème. Et nous, journalistes, on a eu aussi notre part de responsabilité dans le sens où on n'en a pas fait une affaire avant. Peut-être qu'on ne s'en est pas saisi plus tôt. Est-ce qu'on aurait dû se poser cette question ou est-ce que c'est vraiment de l'ordre de la récupération politique? Est-ce que justement on a laissé le champ libre à la récupération politique parce qu'on ne l'a pas traité avant?
Je pense.
Peut-être.
On aurait dû se poser la question en novembre quand elle était sélectionnée pour la première fois. Évidemment. Par contre,
moi je me rappelle d'une très belle interview d'un papier dans Midi Olympique à ce moment-là.
En avril dernier.
On racontait toute l'histoire. Et c'est vrai qu'en lisant ça, j'avais quand même eu un petit sentiment de malaise, mais effectivement, c'est passé.
Après, on pense qu'on veut, le fond, la forme, tout ça. Le seul problème pour l'équipe de France, c'est qu'à 4 jours d'un match d'ouverture de Coupe du Monde face à Nouvelle-Zélande, si ça nous enlève 2, 3, 4% d'efficacité dans cette préparation de match avec tout ce qu'il y a eu, les discussions entre les joueurs évidemment, c'est un problème pour l'équipe de France.
Il n'y a pas eu de discussion, je pense que c'est une question qu'ils ont dû régler très vite.
Ça a été réglé très vite, mais dans le week-end, ça a dû faire des discussions.
Oui,
et puis
elle est médiatisée, mais je pense que cette question, ils en ont déjà parlé. C'est-à-dire que maintenant, ils ont dû répondre à cette question-là, mais en interne, je pense qu'elle est réglée depuis longtemps.
Et ensuite, on ne peut pas remplacer un joueur en cours de compétition, à part s'il est blessé.
Oui, on peut toujours. Artifices. Rappelle-toi, en 99,
à Mignoni, remplacé par Fabien Galthié, il n'était pas une si grosse blessure.
Le timing, il est terrible, et c'est encore une fois pour ça que si on s'en était saisi plus tôt, peut-être qu'effectivement on aurait pu mieux gérer cette affaire entre guillemets que maintenant à la veille de ce match d'ouverture. En revanche, il faut aussi prendre un tout petit peu de recul par rapport à l'affaire Chalureau, parce qu'en fait dans le sport de très haut niveau et le sport international, on peut le voir aussi en équipe de France de foot, que les joueurs mettent des œillères parce que leur coéquipier d'à côté dans le vestiaire, il a été condamné pour des faits de violence, qu'elles soient conjugales, qu'elles soient racistes, ça existe déjà. Là, ça pète à 4 jours ou 5 jours d'une coupe du monde.
C'est anticipé déjà.
Nous, Christophe Adjaye est condamné plein de fois, on fait des podcasts avec
lui. C'est vrai. Et ça ne nous dérange pas.
On peut pas tout vous dire.
Ça vous dérange, mais bon, tant qu'il n'y a pas de récupération politique, vous n'osez pas le dire.
On lui a tendu la main, Christophe. Deuxième chance, allez.
Très bien. Merci beaucoup, messieurs, dames. La compo sera donc donnée mercredi. Et à partir de mercredi, jeudi.
Oui.
Épisode quotidien d'entre les poteaux. Un peu plus court, quand même.
2h30 chaque jour.
Ça va être génial.
Ouais, quand même plus court.
Un quart d'heure tous les jours.
Mais ça messieurs, suffira. Dames, vous qui nous écoutez, ouais. Voilà, en footing, dans votre voiture, dans votre salle de bain,
le
en
bonheur.
Le soir, en vous levant le matin.
Le bonheur. Un quart d'heure de footing, moi, ça me va. Ça me suffit largement.
Moi, j'ai un jeune qui vous écoute tout le temps. Aurélien, il a 11 ans.
Ah, bah super.
Salut Aurélien. Salut, Aurélien.
Et il adore entrer les poteaux.
Ah, c'est donc lui l'auditeur. C'est lui l'auditeur.
C'est lui notre auditeur. Tu regardes, on bat tous les records, Manu. Alors là, on explose les records. Et puis vendredi, évidemment, c'est le grand jour. Super Moscato Show spécial durant l'après-midi, prise d'antenne en direct du Stade de France à partir de 19h, de 19h à minuit pour vous faire vivre ce match. On écoute un peu tout ça parce que Wilfried et Wignon ont rendez-vous avec le président de la République.
Là, quelle chance.
T'as mis la cravate,
moi je vais attendre à l'extérieur, hein, je suis pas encore la chef du rugby.
Ah,
vous
t'es
savez.
Pas, ouais, c'est, ah, pour, oui. Ça que t'es pour ça que t'es en vert.
Ouais, voilà.
Torchon et serviette quand même.
Il faut tuer le père, Wignon.
Mets-lui une grande tarte.
Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer, c'est parce qu'il est dégoûté, je le bats tout le temps au footing. C'est pour ça.
Ça, c'est pas difficile. Hein. Battre Wilfried au rugby et au footing, c'est pas difficile. Hein.
Bah, il a des petites jambes quand même pour courir, c'est pas pratique.
Plus grande que celle que Manu quand même.
Non, le physique, ça, c'est pas beau.
Allez, à la semaine, enfin, pas la semaine prochaine, puisqu'on se retrouve dès avant, donc tout au long de la semaine. Merci beaucoup et vive le rugby, vive la Coupe du Monde. Ça arrive tout de suite.